Le temps des solutions, c'est le thème du 6e Forum international de l'eau, un sujet au cœur des préoccupations de l'ONG Green Cross International, la Croix-Rouge internationale pour l'environnement. Elle a été créée au lendemain du sommet de la Terre par Mikhaïl Gorbatchev, qui préside toujours l'ONG. Les explications de Nicolas Humbert, directeur exécutif de Green Cross France et Territoire, au micro de Pascal Marcadji.
Green Cross, c'est une activité qui a commencé il y a un tout petit peu plus de 20 ans par une rencontre. C'est la rencontre de Mikhaïl Gorbatchev et du commandant Cousteau avec le Forum sur la Terre de Rio en 92. Et en fait, donc Mikhaïl Gorbatchev et le commandant Cousteau sont restés en contact avec les chefs d'État de 92 et se sont rendus compte en 93 que si on n'accompagnait pas l'action des gouvernements par une organisation non gouvernementale qui contribue à impulser une vitesse rapide dans la lutte contre le changement climatique, ça allait être très difficile. Je crois que sur ce point, malheureusement, les faits ont partiellement donné raison à cette analyse et c'est aussi pour ça que Green Cross souhaite être très très impliqué dans le processus de 2012 autour du Forum mondial de l'eau à court terme, mais surtout avec comme objectif Rio plus 20.
Mars 2012, le Forum mondial de l'eau a lieu une fois tous les 3 ans. Qu'est-ce qu'on peut en attendre ?
Je dirais à la fois des choses très concrètes et des prises de position très claires. Sur les choses très concrètes, je pense d'abord à la ratification de la Convention sur les cours d'eau transfrontaliers de 1997. C'est aussi pour ça que Jean-Michel Cousteau va intervenir pour nous rappeler tout l'intérêt du cycle de l'eau et l'importance d'avoir une vision transverse qui ne s'arrête pas du petit cours d'eau au fleuve et qui ne s'arrête pas entre le fleuve et les zones littorales. Le Forum de l'eau à Marseille, pour nous, est un point essentiel sur la route de Rio plus 20.
Alors justement, Rio 1992, ensuite Green Cross naît, hein, c'est sous la présidence de Bettina Laville, puis de Yves Pacalet. On a envie de dire hein, Rio plus 20, on recommence, il y aura Gorbatchev, il y aura Jean-Michel Cousteau, le fils donc. Quels sont, par rapport à Rio, les points essentiels de l'eau qui devraient pouvoir bouger ou voir le jour ?
Tout d'abord, Rio plus 20 propose une nouvelle dynamique qui est toujours de travailler dans la lutte contre le changement climatique, mais de travailler en priorité sur les éléments qui ont un impact direct et immédiat dans cette lutte, notamment l'accès à l'énergie, l'accès à l'eau, à l'alimentation. Le fait d'intégrer l'eau dans une logique territorial permet de sortir de la notion conceptuelle qu'on avait pu connaître à un moment pour être sur une notion qui est profondément marquée dans le quotidien. Dans le quotidien du milliard de personnes qui n'a pas un accès évident à l'eau pour les besoins élémentaires et nous devons y travailler et notamment faire en sorte que les objectifs du millénaire soient respectés plus vite, mais aussi dans le quotidien de nos sociétés occidentales où on voit que la pollution, qu'il s'agisse des algues vertes en Bretagne ou de la pollution de grands fleuves industriels comme le Rhône, tout comme la préservation de la ressource, sont des éléments essentiels si on veut assurer une cohabitation sereine entre les activités humaines du quotidien, les activités agricoles et les activités industrielles.
Alors comment travaillez-vous ? On va prendre des exemples concrets. Les algues vertes en Bretagne, Green Cross, que venez-vous faire là-dedans ?
Très belle illustration pour dire que Green Cross, dans le paysage des ONG, est une ONG qui associe le plaidoyer, l'accès à une communauté scientifique et également la possibilité de faire des actions concrètes sur le terrain. Donc on travaille actuellement en Bretagne avec des agriculteurs, avec des intervenants de la filière porc notamment, pour regarder comment limiter la contribution de l'activité de production porcine à la production d'azote sur le littoral et minimiser l'effet qui génère la production d'algues vertes l'été, tout en produisant une viande de meilleure qualité, en assurant un revenu plus conséquent aux agriculteurs. La transition écologique qui est impulsée par le processus de Rio et qui va s'accélérer à Rio plus 20, c'est aussi une transition qui amène à mieux être que ce soit pour la santé ou que ce soit pour la qualité de vie au quotidien.
Alors, en Bretagne, qui allez-vous voir? Les éleveurs, les institutionnels?
C'est avant tout un projet professionnel donc, qu'on mène avec des acteurs de la filière qui ont souhaité s'engager avec nous, donc des éleveurs, des vétérinaires, des abattoirs, qui n'a pas vocation à faire beaucoup de publicité avant qu'on ait obtenu les premiers résultats, mais qui, une fois qu'il aura démontré sa valeur ajoutée, sera porté largement à la connaissance du grand public.
Un autre exemple de pollution, malheureusement, auquel vous vous attaquez.
Deux exemples qui nous tiennent particulièrement à cœur, c'est la manière dont les sujets sont croisés sur les territoires entre les pollutions, l'impact sur l'eau et la production de valeur énergétique ou non. Si on regarde par exemple la vallée du Rhône, on se rend compte d'un côté qu'on a le parc de centrales électronucléaires qui est très concentré en vallée du Rhône. Cela entraîne des prélèvements sur l'eau du Rhône de plus de 50 à 60% des prélèvements qui sont constatés sur le fleuve, avec des problèmes d'eutrophisation, également d'atteinte à la biodiversité en aval. Donc là, on est sur un enjeu où on voit que notre stratégie énergétique et la pollution des eaux sont intimement liées. C'est un sujet sur lequel on travaille et c'est un sujet sur lequel on a envie d'apporter une approche qui soit à la fois claire dans l'identification des enjeux et des problématiques et qui soit une approche porteuse de solutions. On travaille également aussi beaucoup et pour les mêmes raisons sur l'impact de l'exploration et de l'exploitation des gaz de schiste en regardant quels pourraient être les risques pour les populations, pour l'activité économique locale et en étant capable de mettre en regard ces risques.
En espérant que cette exploitation n'ait jamais lieu. Si on résumait un petit peu en proportion, l'eau qui sert pour l'alimentation humaine, l'eau qui sert pour l'industrie, l'eau qui sert pour le refroidissement des centrales nucléaires, si on avait entre guillemets une carte de l'eau, est-ce que vous pourriez nous la résumer, ne serait-ce qu'à l'échelle de la France?
En France, on a une situation qui est en fait très atypique, notamment parce que nous sommes l'un des rares pays au monde à avoir des centrales électronucléaires en nombre aussi important et à avoir également des centrales électronucléaires qui soient sur les fleuves. Donc, nous avons à peu près 10% de l'eau qui sert pour les besoins humains. Nous avons 60% de l'eau qui sert pour les besoins industriels, dont 50% de l'eau prélevée qu'il est pour les seules centrales électronucléaires. Et le reliquat qui sert pour l'agriculture. Dans un autre pays européen type ou sur des valeurs moyennes un petit peu plus classiques, on aurait 20 à 30% des besoins qui sont dévolus aux eaux domestiques, une activité agricole qui peut représenter 30 à 40% et une activité industrielle qui peut représenter 30 à 40%. Si on regarde les tendances, la tendance par rapport à la consommation domestique n'est pas forcément à la limitation. Pourtant, il existe énormément de solutions pour préserver l'eau. Au nord, on en connaît tous et des campagnes nous y avaient incité il y a quelques années. La tendance par rapport à l'utilisation des eaux agricoles est duale. D'un côté, une agriculture intensive qui est de plus en plus demanderesse en eau. De l'autre, une agriculture paysanne qui est en train de réinvestir sur un cycle court de l'eau sur les territoires et sur une approche beaucoup plus intégrée, beaucoup plus économe de la ressource en eau. Sur les eaux industrielles, on a vu émerger une notion qui est très très importante, c'est l'empreinte en eau virtuelle. Parce qu'on se rend compte que des produits de consommation courante, je pense à votre téléphone portable et au mien, je pense également à nombreux dispositifs de production industrielle, ont une empreinte en eau qui est extrêmement forte. Et que c'est aussi un critère de performance industrielle, c'est parce qu'on donnera une valeur aux choses, parce qu'on se rendra compte que c'est important pour nous en tant que consommateurs de minimiser cette empreinte en eau, qu'on verra émerger de nouvelles innovations de la part des industriels qui vont pouvoir être beaucoup plus économes dans leurs ressources.
Est-ce que vous pouvez quand même revenir sur cette eau virtuelle?
C'est l'empreinte en eau qui a été nécessaire du début à la fin du cycle pour produire ce que vous avez sous les yeux. Si je prends une pomme de terre, par exemple, Une pomme de terre qui aura été produite de manière biologique ou raisonnée aura reçu l'eau qui tombe du ciel et l'eau du sol, soit à peu près 1 à 2 litres par kilogramme de pomme de terre. Si je prends la même pomme de terre qui a été arrosée de manière intensive, comme c'est souvent le cas au supermarché, cette pomme de terre va avoir une empreinte en eau qui est de l'ordre de 10 litres d'eau par kilo de pomme de terre.
10 fois plus, hein.
10 fois plus. Mais là, on est sur des valeurs qui sont extrêmement raisonnables. Quand on s'intéresse aux produits électroniques et plus généralement à tout ce qui est issu de l'exploitation d'un minerai, on va se rendre compte que les valeurs sont extrêmement importantes. On parle pour un smartphone de 8 à 10 000 litres d'eau.
8 à 10 000, hein.
8 à 10 000 litres d'eau. Ça incite à l'économie circulaire, ça incite effectivement à regarder attentivement comment recycler, comment revaloriser au mieux la ressource localement pour éviter d'aller prélever un minerai fossiles à l'autre bout du monde, et on est très très loin d'avoir imaginé tous les process industriels qui permettent d'économiser beaucoup plus l'eau.
Donc pour résumer, vous travaillez selon un maillage de plus en plus serré, à la fois pour alerter, pour informer aussi le public?
Absolument. On a une association qui est présente en fait localement, avec des groupes d'impliqués, puisque c'est ainsi qu'on appelle les bénévoles et les experts qui composent notre réseau à Marseille, à Lyon, à Rennes et plus généralement en Bretagne, dans l'est de la France, à Paris bien sûr. On travaille également à l'échelle européenne et internationale puisqu'on a la chance au sein de Green Cross d'être 34 organisations nationales et on a toujours eu dans notre ADN l'envie de partager au sein de notre réseau pour avoir des projets de solidarité forts entre le Nord et le Sud. Il y en a un qui me tient particulièrement à cœur, c'est Smart Water for Green Schools.
Qu'est-ce que c'est que Smart Water for Green School?
Donc, derrière l'acronyme anglophone, il s'agit bien de fournir de l'eau dans des régions qui n'y ont pas accès, donc souvent des petits villages. On a un exemple au Ghana ou dans les communautés locales au nord du Ghana. On est capable de proposer un accès payant à l'eau de boisson dans les villages contre la scolarisation des enfants. J'allais dire, c'est un petit peu un double effet, c'est-à-dire que d'un côté, on apporte l'accès à l'eau avec tous les bénéfices de santé et d'hygiène qu'on peut imaginer. De l'autre, le fait que les enfants n'aient plus à faire la corvée d'eau leur permet d'être scolarisés. Ce qui nous tient beaucoup à cœur, c'est que maintenant, les projets ont été dès le début conçus avec Green Cross Ghana, mis en œuvre par Green Cross Ghana et par les gens qui sur place en étaient les premiers bénéficiaires, et ça c'est essentiel. Ces projets actuellement deviennent autonomes. On est en train de développer la même démarche en Bolivie et dans d'autres régions du monde. C'est une démarche dont on se rend compte à quel point elle est vertueuse. Aujourd'hui, nous sommes présents dans une quarantaine de villages. Avec votre support, c'est une activité qu'on peut démultiplier, qu'on peut rendre encore beaucoup plus efficace.
Pour plus d'informations sur Green Cross France et Territoire, une adresse, le www.gcft.fr.